Bonjour, c'est Jazz d'ici et d'ailleurs, l'émission d'Action Jazz sur Eau de Radio pour vous faire découvrir et aimer le jazz, qu'il soit d'ailleurs ou qu'il soit d'ici. Au micro, Philippe Desmond, à la console, Dany Ducasse. Alors, dans la région vont avoir lieu bientôt deux événements relatifs à un musicien de jazz et de bien d'autres choses mondialement célèbre, le pianiste Keith Jarrett. Le jeudi 12 mars à 20h au cinéma Grand Écran, l'association Cinéphile en Libournais, donc ce sera à Libourne, propose la projection du film Au rythme de Vera, qui raconte la préparation du légendaire concert de Cologne, le Köln Concert, en 1975. Comment une jeune fille de 17 ans a réussi à monter ce coup qui deviendra un des disques de jazz les plus vendus, près de 4 millions d'exemplaires. Le jeudi 9 avril, à l'auditorium de Bordeaux cette fois, l'auditorium de l'Opéra, c'est justement ce Köln Concert qui sera repris à quatre mains par la pianiste Maki Mamekawa et le pianiste Thomas Enko. C'était l'occasion pour Jazz d'ici et d'ailleurs de proposer une émission sur Keith Jarrett, qu'on peut qualifier de génie du jazz, de génie de la musique en général. Alors Keith Jarrett, il vit toujours, mais il est né le 8 mai 1945 en Pennsylvanie. Et c'est un musicien américain, bien sûr. À la fois pianiste, il est organiste, claveciniste, saxophoniste, flûtiste, percussionniste, compositeur et chef d'orchestre. Vous vous rendez compte? Il œuvre autant dans le jazz que dans la musique classique, ce que l'on sait moins. Keith Jarrett fait partie de ces musiciens de jazz connus du public non spécialiste. Son album de Köln Concert de 1975, qu'on évoquait tout à l'heure, à la surprise générale, s'est vendu à des millions d'exemplaires, je crois 4 millions, alors que jusque-là, ses œuvres n'avaient pas eu un tel accueil. Très précoce dans tous les domaines, il parle à 1 an, il débute le piano à 3 ans, il gagne un prix à la télé à 5 ans, il fait son premier concert à 7 ans, il se marie à 19 ans, et il entre à la Berklee School dans la foulée. Il entre à 21 ans, chez les Jazz Messengers d'Art Blakey. C'est un groupe de référence du hard bop qui a lancé énormément de musiciens parmi les plus connus. Donc il joue en 1966 sur l'album Buttercorn Lady. Il n'est pas resté très très longtemps, on va le voir. Il joue avec Chuck Mangione, Frank Mitchell, Keith Jarrett, donc Reggie Johnson et Art Blakey. On va écouter le premier titre en 1966 de Keith Jarrett, donc il n'était pas très très vieux, Secret Love, l'amour secret. C'est parti. Thank you. Voilà, donc c'était Keith Jarrett qui participait à 21 ans au groupe des Jazz Messengers avec Al Blackie. Et vous avez entendu les applaudissements mérités après son chorus. Il jouait du piano déjà merveilleusement bien. Il quitte les Jazz Messengers assez vite pour enchaîner avec le groupe du saxophoniste Charles Lloyd. Charles Lloyd, on a eu la chance de le voir, c'était au château Maison Blanche à Montagne. C'était en, je ne me rappelle plus en quelle année, il y a 5 ou 6 ans, on a eu la chance de le voir à Saint-Émilion. Et il enchaîne donc avec le groupe de saxophonistes, avec Jack DeJohnette, qu'il rencontre donc ainsi par la même occasion, et avec qui allait former un peu plus loin, on va le voir, son fameux trio, Cecil McBee et Ron McClure. On les écoute là, un extrait, un enregistrement, c'était à Montreux au Festival de Jazz en 1967, Days and Night Waiting, et vous allez voir qu'il n'est pas resté très très longtemps avec Charles Lloyd. On va expliquer pourquoi. C'est parti, Days and Night Waiting. Voilà, donc on laisse le contrebassiste développer son chorus. On venait d'écouter donc notre ami Keith Jarrett, c'était avec le groupe de Charles Lloyd, c'était en 1967 à Montreux, le titre Days and Night Waiting, donc attendre le jour et nuit. Mais il n'est pas resté longtemps parce que, comme il était doté d'un caractère assez entier, Keith Jarrett quittera le groupe assez vite, ayant exigé d'être aussi payé que le leader. Il n'y avait pas de raison. Et il n'a pas obtenu satisfaction, évidemment. Donc il décidera alors de mener sa propre carrière sans dépendre de qui que ce soit. Tout en ayant ses exceptions, il dérogera en acceptant en 1970 la proposition de Miles Davis de le rejoindre, se résignant même à la demande du maître de ne jouer que des claviers électriques, alors que lui, il a toujours été difficile avec les instruments. Miles est un des seuls à avoir fait plier Keith Jarrett, avec, comme on va le voir, une certaine Vera Brandes, mais ça, c'est juste un peu après. Alors, entre-temps, il formera son premier trio, avec Charlie Haden à la contrebasse et Paul Motian à la batterie. Il mélangera les styles bebop, le free, la pop. Il enregistrera même un album pop-folk à cette époque sur lequel il chante. Vous voyez, donc, il a un répertoire très, très riche. On écoute sur l'album Life Between the Exit Signs en 1967 le titre Everything. Salut. Thank you. Voilà, Keith Jarrett, à 22 ans, il est devenu son propre patron. Il a monté ce premier trio, Charlie Haden à la contrebasse et Paul Motian à la batterie. Et toujours avec son trio, il fait une reprise de Bob Dylan. Et oui, on l'a dit, il est très éclectique. Et encore, vous n'avez pas tout vu et vous n'avez pas tout entendu. On écoute donc ce titre de Bob Dylan, My Back Pages. C'était en 1969. Keith Jarrett a à ce moment-là 24 ans. Une reprise de Bob Dylan, My Back Pages, par Keith Jarrett en 1969. Répertoire éclectique, donc comme on a pu le dire. C'était plus un improvisateur qu'un compositeur, hein, Keith Jarrett. On va le voir encore un peu plus loin. Alors, parallèlement à ce trio, il rejoint pendant 2 ans, à partir de 69-70, Miles Davis. Il partage même la scène avec un autre pianiste, donc pour partager Keith Jarrett, hein, il fallait le faire, c'est avec Chick Corea. Il accepte aussi des collaborations avec Gary Burton, Freddie Hubbard, Paul Motian. Et on va le retrouver ici sur l'album Get Up With It, une compilation de 70 à 74 de Miles Davis. C'était un double album. Un morceau qui avait été enregistré en mai 1970. Il a fait aussi l'île de Wight avec Miles Davis. Il n'avait pas le piano qu'il voulait, mais bon, avec Miles, il n'a pas fait de scandale. On verra plus loin que c'était un homme qui avait quelques caprices quand même. Et donc là, Miles Davis, il le respectait, donc il fit les droits. Miles Davis est bien sûr sur ce titre à la trompette, Erto Morera aux percussions, Steve Grossman au sax-soprano, Billy Cobham, il est même crédité William Cobham à la batterie, on est en 1970, Billy Cobham commençait à éclore, on retrouve Michael Anderson à la Fender Bass, le grand guitariste anglais John McLaughlin à la guitare et Herbie Hancock au clavier. Donc vous voyez, il y avait deux claviers, Keith Jarrett, Herbie Hancock. Honky Tonk, on change totalement de style, en 1970, Honky Tonk de Miles Davis.
Yeah.
Voilà, difficile de distinguer Keith Jarrett au milieu de ce All-Stars. Miles Davis, Ayrton Moreira, Grossman, Cobham, Anderson, McLaughlin et Herbie Hancock en 70. C'était le titre Honky Tonk. Et en 1972, Keith Jarrett commence sa collaboration avec Manfred Escher, c'est le mentor du label ECM, avec un album solo. Voilà, c'est là qu'il va commencer à se rendre célèbre avec ses fameux solos. Parce qu'en 1973, il est vacciné par les innovations de Miles et il part en croisade contre la musique électrique. Donc c'est fini, il n'en jouera plus jamais. Alors, il passera ensuite du trio au quartet avec l'arrivée du saxophone Dewey Redman, mais il surprend encore en trio en jouant du sax soprano sur un album, El Juicio, imprévisible qu'ils arrêtent. On va le voir. Et on va écouter dans l'album Expectation, qu'ils arrêtent est au piano, à l'orgue, au sax, au soprano, au saxophone, au tambourin, aux percussions, aux arrangements. Dewey Redman est au saxophone ténor, Charlie Haden est à la basse, Paul Motian à la batterie, Sam Brown à la guitare, Ayrton Moreira, le revoilà, aux percussions. Et puis, sur l'album, il y a une section de cordes non identifiée et une section de cuivre non identifiée aussi. C'est pour ça que vous allez entendre beaucoup de musiciens avec des arrangements assez larges. On écoute donc en 1972, sur l'album Expectation, c'est le quartet élargi de Keith Jarrett, Come On Mama. Voilà, le quartet de Keith Jarrett, c'était en 1972, Common Mama, sur l'album Expectation. Il était avec Charlie Haden à la contrebasse, Paul Motian à la batterie, Dewey Redman au saxophone ténor, Sam Brown à la guitare, Herto Moreira aux percussions. Et donc en 1975 arrive le concert de Cologne, une mine d'or, on parle de près de 4 millions d'albums vendus. Le plus vendu des albums de jazz, il serait à plus de 5 millions, c'est Kind of Blue de Miles Davis. Alors ce concert, bien un mauvais piano, parfois qui sonne un peu bastringue. Il arrive fatigué, qu'ils arrêtent. C'est une improvisation totale, il ne sait pas avant le concert ce qu'il va jouer. On dit qu'il a brodé sur la sonnerie d'appel à rejoindre la salle de l'Opéra de Cologne où se déroulait le concert. Bon, c'est à vérifier, il y a une autre interprétation. Et un miracle absolu que ce concert, un succès inexpliqué auprès du grand public, parce qu'on n'est plus trop dans le jazz tel qu'on l'entend, on est dans la musique improvisée totalement. Et je vous rappelle que ce concert, il a été monté par une jeune fille qui s'appelait Vera et qui, cette Vera Brandes, à 17 ans, a réussi à organiser ce concert contre vents et marées. Et c'est l'objet du film Au rythme de Vera qui sera projeté. Alors ce sera au cinéma grand écran de Libourne. Ce sera le jeudi 12 mars à 20h au cinéma grand écran par l'association des cinéphiles en Libournais. 6 euros, je crois, 6 euros la séance. Et Action Jazz, en ma personne, donc animera un débat et retracera un peu quelques éléments biographiques de Keith Jarrett ce soir-là pour étoffer cette projection de ce film qui est très rare. C'est un film qui est sorti au mois de juin. Alors on va écouter un extrait du Cologne Concert parce qu'on ne peut même pas dire un morceau. C'est un flux continu, ça dure plus d'une heure. Et on va écouter entre 6 et 7 minutes de cet album du concert de Cologne de 1975, le tube, entre guillemets, il aimerait pas ça, de Keith Jarrett. Voilà, c'était un extrait du concert de Cologne, le fameux Köln Concert en 1975, en piano solo de Keith Jarrett, après bien des péripéties pour arriver à organiser cet événement. Parce qu'en plus, l'homme, il a eu toujours un caractère bien trempé et une haute opinion de lui-même, un comportement assez caractériel même. Ses caprices sont célèbres, il était capable de quitter la scène s'il était gêné par des bruits ou des éternuements dans le public. Il n'admettait aucune présence lors des balances, hormis les techniciens. À Marciac, il exigeait la fermeture des cantines des bénévoles lors de ses concerts, parce qu'il y avait des odeurs qui le dérangeaient. Il ne voyageait même pas dans la même voiture que ses musiciens. Il lui fallait une Mercedes, et les musiciens étaient derrière. Voilà, donc un personnage quand même assez particulier, mais un génie de la musique. Alors, on écoutait le Köln Concert en 75, là on se retrouve en 1977, et il monte un nouveau trio, avec, c'est peut-être le plus célèbre, avec Jack DeJohnette à la batterie et Gary Peacock à la contrebasse. Il sera baptisé un peu plus tard, en 1983, le Standard Trio, parce qu'ils vont reprendre des standards à leur façon, ils vont les magnifier. Il jouera très longtemps avec eux, jusqu'en 2018, où deux AVC lui paralysent le côté gauche. Et lui cause des problèmes de mémoire. Ces deux AVC en 2018 mettent un terme à sa carrière. Donc on va écouter un standard, justement, parmi les standards, de 1945, issu d'une comédie musicale dont j'ai oublié le nom, mais si, ça s'appelle Escale à Hollywood, I Fall in Love Too Easily, je tombe amoureux trop facilement. En 1985, Keith Jarrett et son trio, Jack DeJohnette, Gary Peacock. C'est parti. I Fall In Love Too Easily, c'était le nouveau trio, le standard trio de Keith Jarrett avec Jack DeJohnette à la batterie et qui est mort il y a peu de temps et Gary Peacock à la contrebasse. Ça, on était en 1985. Alors auparavant, en 1974, il avait créé ce qu'on appelle le quartet européen, le Belonging Band, avec Jan Garbarek au saxophone, le bassiste Pal Danielson et le batteur John Christensen, sans délaisser pour autant sa formation américaine, évidemment. Et donc il était sur les deux continents, il venait en France tout seul, enfin en Europe tout seul, et il tournait avec les Européens. Ils tourneront et enregistreront jusqu'en 1979. Il a dit apprécier cette collaboration avec ses Nordiques parce qu'ils étaient propres et toujours à l'heure. Voilà, donc c'était une exigence qui était satisfaite. Écoutez l'album, si vous avez un à écouter, c'est My Song, un album qui fait tellement de bien. Alors on va écouter justement de cet album Personal Mountains en 1979. C'était le quartet européen de Keith Jarrett. Voilà, le quartet européen de Kizaret avec Jan Garbarek, Pal Danielson et John Christensen, c'était en 1979. Mais Kizaret, il est toujours surprenant et il se lance dans les années 90 dans la musique classique et contemporaine. Alors, il interprète Bach, Handel, Mozart, Chostakovitch, ainsi que des compositeurs contemporains, je dois dire dont j'ignorais l'existence, Alan Hovhaness, Lou Harrison, Peggy, Glanville, X, Arvo Pärt. Voilà, peut-être des noms qui vous parlent, mais donc des musiques totalement différentes de ceux qu'il pouvait faire dans le jazz. Il enregistre même les variations Goldberg au clavecin et il gagne un concours de clavecin à l'aveugle avec des spécialistes de l'instrument. Ça a étonné tout le monde à la fin, celui qui a gagné. Eh bien, c'était Keith Jarrett qui nous avait habitués à autre chose. À la fin des années 90, eh bien, il est atteint du syndrome de fatigue chronique lors d'une tournée en Italie et il fait une pause jusqu'en... Il rejoint en 98. Alors, sur un album assez controversé, parce qu'il y en a certains qui ont dit « oui, c'est du piano bar ». C'était un album dédié à sa seconde femme, Rose, et qui s'appelle « The Melody Night With You ». Un album donc que certains n'ont pas trop apprécié. Et son dernier album en public, eh bien, c'est à Bordeaux qu'il l'a enregistré. C'était au concert live de Keith Jarrett dans lequel il jouait du piano solo. C'était de la musique enregistrée le 6 juillet 2016 à l'Opéra de Bordeaux, à l'Auditorium exactement, lors d'une tournée européenne. Et l'album est sorti par ECM sur format CD en septembre 2022. Donc vous voyez, il n'y a pas si longtemps que ça. Keith Jarrett vit toujours. En 2018, il a donc eu cet AVC, mais qu'il a rendu. Il y a quelques photos sur Internet où on le voit très, très, très handicapé, avec un côté qui est totalement paralysé. Voilà. Alors, on se quitte en écoutant les variations Goldberg de Keith Jarrett jouées au clavecin. Voilà, un musicien tellement éclectique et tellement génial. Voilà. Au revoir.